les syndicats sont nés depuis pendant la période coloniale.
Le syndicalisme version moderne est introduit en Afrique par des syndicats européens. Ça, c'est un fait historique incontestable. Bon, c'est vrai que les conditions de la naissance et d'évolution du syndicalisme européen et le syndicalisme africain sont différentes. Parce que le syndicalisme est né, par exemple, en Europe, comme étant une réponse organisée des travailleurs contre le capitalisme. Donc les travailleurs européens subissaient une exploitation capitaliste, donc ils s'organisaient, ils créaient des cadres de solidarité pour améliorer leurs conditions, etc. Mais pour nous en Afrique, on subissait une double exploitation, capitaliste et colonialiste. Donc c'est pour ça que le syndicalisme africain, il a pris un caractère un peu spécifique.
Et l'histoire nous enseigne que les travailleurs soudanais en ce moment, avant d'être maliens en 1960, ont bataillé dur contre le colonisateur. Et ils ont eu à faire des résistances comme les grèves du chemin de fer, dont on parle très souvent. Donc c'est pour vous dire simplement que le syndicat a existé au Mali déjà lorsqu'on était Soudan et travaillé durement pour défendre les intérêts des travailleurs.
C'est que en Afrique, les organisations syndicales ont joué extrêmement un rôle important dans la lutte contre le colonialisme. Parce que, d'abord, les syndicats étaient, les travailleurs étaient les premières victimes de la colonisation. Et quand je prends le côté de la France, par exemple, la grève de 1951, c'était pour que les travailleurs africains aussi, quelle que soit dans la colonie dans laquelle ils se trouvent, qu'ils puissent avoir le droit de former des organisations syndicales et de défendre. Il y a eu ce qu'on a appelé la grève de 72 jours avec le Sénégal, la Guinée, le Soudan à l'époque et tout, pour que, même au niveau du gouvernement français, qu'on reconnaisse qu'il y a le droit d'avoir des organisations syndicales dans ces pays. Et il faut reconnaître là aussi que la CGT en France avait appuyé les travailleurs à cette époque.
Mais avant l'indépendance, on était censé être français. Donc les gens qui travaillaient là, travaillaient en tant que français, et il y a des français qui venaient aussi au Tchad. Il existait réellement cette situation-là, qui faisait que, effectivement, l'influence était là, et gérée de loin, bien sûr, dans le domaine de l'éducation, de la formation, etc. Il y avait cette influence certaine, mais bon, je ne dirais pas plus. Qu'est-ce qu'il y avait de plus, sinon défendre les travailleurs, ici et en métropole.
Quand c'était des colonies, naturellement, c'était des territoires. Et c'est pour ça que dans les différents pays, surtout quand on prend l'exemple des pays francophones, les organisations syndicales ont créé des syndicats au niveau national, mais aussi au niveau continental. C'est pour ça qu'il y a eu l'UGETAN, l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire, qui a été créée en janvier 1957 à Cotonou, au Bénin, pour mobiliser les travailleurs de tous les pays francophones, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique équatoriale, pour leur dire qu'ils doivent travailler ensemble, ils doivent vivre ensemble.
D'abord, c'était la lutte pour la décolonisation du continent, et c'est pour ça qu'il y a eu convergence entre le mouvement syndical et les mouvements syndicaux. Les dirigeants syndicalistes bon, de cette période étaient aussi des dirigeants politiques qui militaient pour l'indépendance de l'Afrique.
La spécificité de mon pays, c'est que c'est la lutte syndicale qui a été l'amorce de la lutte politique en Guinée, parce que les syndicats ont existé depuis 1945. Et donc, les acteurs, les travailleurs ont dès le départ compris la nécessité qu'il y avait de s'organiser pour défendre les causes d'abord des travailleurs, mais ensuite des populations en général. Et c'est ce processus qui a abouti à l'avènement de la Guinée à l'indépendance en 1958. Donc, cette forme de lutte qui a été la marque déposée de la Guinée a continué. Et c'est ainsi que le syndicat, même avec le changement de régime, a pris ses responsabilités pour dire que le pays ne peut se construire sans les travailleurs.
First is to understand the link between political parties and trade unions during the decolonization and the liberation struggle. Those were relevant, those were necessary, those were important relationships that needed to be built.
Il y avait une convergence entre une conscience sociale syndicale et la conscience nationale. Et il y avait un rapport organique même entre la lutte syndicale et la lutte nationale, ce qui par ailleurs a affecté le mouvement syndical africain après l'indépendance. Donc après l'indépendance, c'était une autre étape. Là, bon, des jeunes États qui viennent d'accéder à l'indépendance, donc il fallait mettre en place des institutions d'État, et il fallait mettre en place aussi, construire une économie. Et je pense que les syndicats africains ont participé dans cette entreprise de construction de leurs jeunes États indépendants.
Et chez nous, après l'indépendance, il y a eu trois centrales qui ont cohabité. Bon, ces centrales-là, jusqu'à ce que les militaires prennent le pouvoir en 1975, ces centrales étaient dissoutes, pratiquement. Les militaires n'ont pas voulu entendre parler du syndicat. Il y a eu un vide syndical. Pendant 4 ans, je crois, 1979, le Tchad a connu la guerre, dont vous avez certainement entendu parler. Et c'est pratiquement au lendemain de la guerre que des centrales vont naître.
Et nous avons eu beaucoup à travailler avec le parti au pouvoir. Pour la petite histoire, je vous dirais que c'est l'Union nationale des travailleurs du Mali qui a proposé au parti au pouvoir de faire un développement non capitaliste au Mali.
Pendant la Première République, c'était une liaison avec les partis, beaucoup plus avec les syndicats des pays socialistes, mais surtout, on a recentré le processus, la relation avec les syndicats français, mais également avec d'autres syndicats.
And the crisis of state capture, this same political party that you talked about, rather than serving those who struggled with them, who were in the trenches to bring the countries out of decolonization and apartheid grip and what have you, have over the time been taken over by the political class, vested interests, big businesses with fat pockets who literally buy election through sponsorship of candidates and then imposed certain conditions or demand some concessions which the state, the government as operators of the state, you find them often unable to resist. And that in its sense is partly why you find labor weak, because even labor laws and labor relations are now being used as concession for businesses.
Et si nous avions eu à proposer au parti au pouvoir une société de développement non capitaliste, c'est eu égard à notre propre idéologie. Et c'est ça qui a été fait. Et d'ores et déjà, le premier gouvernement de Modibo Keïta, disons du Mali, a eu comme premier travail à créer des sociétés entreprises d'État. Parce qu'on ne peut pas être indépendant politiquement si on ne l'est pas économiquement. Donc, il faut bien faire des sociétés entreprises d'État. Et c'est ça qui a été fait. Et avec l'Union nationale des travailleurs du Mali. Ça, c'était une réalité et nous en sommes fiers. Jusqu'au coup d'État de 68. Au coup d'État de 68, les syndicats ont connu la galère avec les militaires. Je ne reviendrai pas sur tout ça, mais je vous dirai uniquement que malgré la galère, l'Union nationale des travailleurs du Mali a tenu à continuer à travailler pour un retour à une vie constitutionnelle normale. Et ça, c'était très important, malgré les tortures, malgré les emprisonnements. Hein, la centrale a tenu à faire ça. Nous avons payé, mais après, il y a eu un retour à une vie constitutionnelle normale. Et nous avons continué à faire notre travail de syndicat.
Le rapport de force dans les différents pays, si les mandants tripartites et particulièrement les responsables syndicaux et même les employeurs et des fois certains gouvernements, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, c'est multinational pour elles, mais c'est la colonisation moderne. Quand elles vont dans certains pays, quand on voit les accords qu'ils arrivent à obtenir, à signer avec certains gouvernements, quand ils voient la complicité de certains employeurs par rapport à cela, quand les syndicats vivent des réalités et des contextes comme ça, c'est à eux à leur dire, quand vous venez prendre nos matières premières, quand vous venez prendre nos richesses, que les propriétaires de ces mines, de ces richesses, il ne faut pas que ceci soit éliminé dans les bénéfices que votre entreprise pourra avoir.
Parce que les syndicats ont eu à se batailler dans les années, disons, 80, avec les PASS, le programme d'ajustement structurel que vous connaissez. Là, vous savez qu'il était imposé dans ces pays à la privatisation des sociétés entreprises d'État. Chez nous, au Mali, nous avons continué à lutter dur pour empêcher cela. Mais avec le capital international, bon, ça n'a pas pu fonctionner comme on le voulait.
Il faut admettre que les multinationales ont un pouvoir terrible sur l'économie mondiale. Ils se sont constitués en réseau. Et ce sont eux qui fixent les règles, ce qui fait que les États sont faibles. C'est-à-dire que les décisions se prennent en dehors des États. Ce sont ces réseaux. Ces réseaux sont effectivement ces grandes multinationales implantées un peu partout dans le monde, mais notamment en Afrique, parce que l'Afrique constitue d'abord une source pour la matière première et ça constitue aussi un marché. Donc c'est pour ça que ces multinationales exercent un pouvoir terrible sur notre continent. Il faut renforcer le syndicalisme. Il n'y a que les syndicats qui peuvent justement réduire, lutter contre cette mainmise sur notre continent. Parce que ce sont ces multinationales et les institutions financières internationales qui ont conçu cet ordre aujourd'hui. nous subissons des conséquences très très difficiles de cet ordre, mais aussi nos camarades en Europe et ailleurs aussi en prennent leur part par voie de délocalisation. Par exemple, le dumping, c'est la part réservée pour les travailleurs.
Le néocolonialisme est là, mais on assiste aussi à cette mondialisation effrénée qui est basée sur le libéralisme aveugle, qui favorise en tout cas l'aspiration à l'intérêt personnel. Les entreprises aujourd'hui ne regardent pas le plan social, mais elles regardent le gain, le profit. Donc chaque entrepreneur, qu'elle soit grand ou petit, ne regarde que son gain. Et il fait pas de social. Donc pour lui, c'est par rapport à ce qu'il doit gagner dans les actions qu'il mène, mais c'est pas par rapport à ce qu'il doit fournir en tant que contribution à la vie sociale. Pour lui, donc, supprimer un poste, un emploi, ne tient qu'à sa tête. Tant que ses intérêts sont en danger, il est prêt à supprimer n'importe quel nombre d'emplois qui correspond à ce gain-là, à ce manque à gagner. Donc aujourd'hui, nous sommes en tout cas comptables de cette situation et c'est venu à un moment où nous sommes encore divisés par les courants politiques du niveau national jusqu'au niveau international, si on veut.
Nous échangeons beaucoup entre nous-mêmes. Le PANAF nous a permis, en tant qu'éducateur, en tant que formateur, d'être en contact avec les formateurs et les animateurs des autres pays. Et ça nous a permis d'échanger sur ce qui se passe, comment ça se passe, sur comment on résiste.
Where we have to, you know, work together, we have to network together, because the issues for workers cut across all. It is not about where you come from in terms of your country, but also as a continent and also a wider the whole world.
Nous devons travailler ensemble parce que ces multinationales n'ont pas de patrie, n'ont pas de nation. Elles ont beaucoup plus des intérêts à défendre. Elles ont beaucoup plus le profit à augmenter. Donc, en définitive, même si nous subissons de manière relativement différente les affres, les conséquences, mais je pense qu'on est dans le même bain.
La déclaration de Philadelphie en 1944 dit le travail n'est pas une marchandise. La pauvreté partout est une menace à la paix. Quand il y a des valeurs comme ça, nous en Afrique, il faut veiller quand même à ce que ces principes-là soient mis en valeur, à ce qu'on les exécute et que nos États veillent justement à ce que, quand ils ont adhéré à l'OIT, qu'ils respectent quand même ces principes dans leur propre pays.
Ainsi, nous devons organiser la solidarité, la renforcer sur le plan international.